au réseau Cogeco. Cogeco, Cogeco. Vous écoutez les week-ends de Paul Oud, votre magazine de la fin de semaine.
Samedi matin, c'est le 9 octobre. Samedi de long week-end, dans l'ensemble, assez beau partout, je dis bien assez, oui, soleil, nuage à Montréal, Trois-Rivières, Sherbrooke, possibilité d'averse à Gatineau. Stéphane Boucher nous arrive oui. De la salle des nouvelles et Stéphane, notre thématique de ce matin, les bruits. Nous vivons dans un univers de bruits électroniques. Mais ces bruits-là, on n'aime pas les entendre et c'est survenu à Laval.
Oui, c'est des coups de feu qui ont encore été tirés dans la région de Montréal. Donc, Laval, 21h30, Montémonette, angle Ivan Pavlov. Il y a un véhicule qui a été mobilisé à un feu rouge et dans ce véhicule, il y a deux occupants. Il y a un autre véhicule qui va arriver à côté de ce véhicule-là. Il y a des coups de feu qui sont tirés en direction de l'automobile des victimes. Le conducteur a été atteint. On ne craint pas pour sa vie. Alors, pas de suspect. Je viens de parler à la police de Laval. Le conducteur, lui, n'est pas connu des milieux policiers.
Merci beaucoup. 8h21.
L'Amérique.
Who doesn't see red states and blue states only sees the United States.
Avec Valérie Beaudoin.
Bonjour Valérie Beaudoin.
Bonjour Paul.
Avez-vous des bruits qui vous fatiguent, vous?
Ah ben j'en ai quelques-uns. Ben oui. Moi, les classiques, là, les ongles sur le tableau.
Arrêtez, non.
Il y a des,
non, ou
y a
la
des
craie.
Choses pas capables. Non, ça, c'est. Non, ça ne fonctionne pas. Entendre quelqu'un mastiquer, non plus. Ça, c'est des choses qui vont m'agresser.
Oh non, vous avez raison, les maudits tableaux. Faut pas parler de ça.
Non,
juste
ça,
y songer.
C'est pas un bon réveil.
Oh, les craies. Alors, on amorce avec quoi votre chronique?
Peut-être brièvement, juste dire qu'on va surveiller aujourd'hui une rencontre entre les talibans et les Américains. Paul, c'est la première fois depuis le retrait des troupes au mois d'août qu'on va les rencontrer. Mais là, les gens, si on pense que c'est pour reconnaître le gouvernement taliban, c'est pas ça qui va se passer. Finalement, ce qu'on dit, en fait, ce que le département d'État dit, c'est vraiment pour s'assurer que le gouvernement taliban, qui est à la tête de l'Afghanistan, on le sait, respecte le droit des femmes, le droit des fillettes, le droit des enfants. Donc, qu'il y a un respect des droits humains et que le gouvernement, donc, soit inclusif. Est-ce que c'est vraiment ça qu'on voit pour l'instant?
Ben
pas
là,
vraiment.
Dans l'actualité, c'est effroyable. Il y a eu un attentat encore hier, 55 morts. Les talibans ont des ennemis jurés. Ils ont pris le pouvoir, mais ils ont comme ennemis jurés Daesh ou enfin l'État islamique, K, comme on l'appelle là-bas, qui sont leurs ennemis jurés et qui ont probablement commis cet attentat hier, 55 victimes quand même.
Et l'État islamique, c'est d'ailleurs eux qui avaient revendiqué l'attentat contre des militaires américains là, et des civils afghans qui à l'aéroport, hein, si on se rappelle, là, au mois d'août dernier. Donc, on va surveiller ça aujourd'hui et demain. Ça se passe à Qatar, à Doha. On veut aussi s'assurer de voir comment est-ce que les fameux interprètes, hein, les gens qui ont aidé les Américains, qui se trouvent toujours là par milliers, vont pouvoir sortir de façon sécuritaire du pays. Donc, ça va vraiment être ça à l'ordre du jour.
Alors, la semaine dernière, vous vous êtes rendu à Dallas, au Texas. La loi anti-avortement du Texas sera-t-elle finalement suspendue?
Et c'est ça la grande question. Écoute, ce matin, je regardais à nouveau parce qu'hier, les décisions arrivent toujours tard le soir. Mercredi, on a une première suspension. Donc, par un juge fédéral du Texas qui a dit « Je donne une injonction temporaire parce que cette loi n'a pas sa raison d'être et je ne veux pas qu'elle soit active une seconde de plus. » Donc, ça rétablissait en quelque sorte le droit des femmes d'avoir un avortement au-delà de 6 semaines, au-delà du moment des battements cardiaques. Mais par contre, la loi a été écrite d'une façon où on disait « Écoute, Paul, si des médecins pratiquent des avortements des gens et d'une femme, même pendant une suspension, on avait prévu ça dans la loi, on peut rétroactivement poursuivre ces gens-là. Alors, je peux te dire que ce n'était pas un vrai retour à la normale parce que les gens craignaient d'avoir des poursuites. On parle de poursuites de 10 000 $ par personne poursuivie, c'était quand même ça.
Oui, pour complicité.
Et voilà, écoute, on est vraiment dans une espèce de mécanisme qu'on n'a jamais vu ailleurs où c'est les citoyens qui appliquent la loi et c'est ça qui rend est vraiment difficile de la contester. Donc, hier, il y a des juges de la Cour d'appel, finalement, qui ont décidé que la loi était valide. Donc, elle a été réintégrée. Il est désormais, encore une fois, quasi illégal d'avoir un avortement au Texas. On va continuer comme ça le processus juridique dans les prochaines semaines. On va voir ça va se rendre jusqu'où.
Alors, c'est maintenant officiel. Le président américain Joe Biden ne va pas empêcher le comité d'enquête sur l'insurrection du 6 janvier dernier d'avoir accès à des documents sur les faits et gestes du président cette journée-là, le président Trump.
Exactement. Parce qu'on le sait, hein, Trump a demandé aux archives américaines de bloquer l'accès à ces documents en disant qu'il y avait un certain privilège comme ancien président de ne pas avoir de l'information confidentielle. Et là, ça s'est confirmé hier par la voix de Jen Psaki, entre autres la secrétaire de presse, qui a dit non, Joe Biden ne va pas s'opposer. Ça n'a pas lieu d'être d'avoir cette prérogative présidentielle. Donc, ce qu'il va avoir pour cette commission, que je rappelle qui n'est pas bipartisane dans sa grande majorité démocrate, avec l'exception, par exemple, de Liz Cheney, qui est là de cette commission d'enquête, on va avoir accès pas juste aux tweets là, qui sont archivés quelque part, mais aux messages textes, aux comptes rendus des réunions, des rencontres, des discussions, des courriels. Alors, on va savoir vraiment, Trump, est-ce qu'il était au courant qu'on menaçait de mort, par exemple, Pence?
Et on disait, parce qu'il y avait plusieurs versions, on disait qu'il y a certaines personnes qui étaient avec lui. On a encore des bruits électroniques qui sonnent. Bon, alors, il y a des gens qui disaient, oh oui, il était parfaitement au courant parce qu'il regardait ça du coin de l'œil à la télévision en direct.
Et oui, on disait, si tu te rappelles que des gens l'appelaient de l'intérieur du Capitole en disant, faites quelque chose, Monsieur le Président, pouvez-vous dire à vos gens, là, finalement, aux manifestants, de s'en aller, ça devient dangereux et qu'ils n'auraient rien fait. Donc, est-ce que le président était vraiment au courant qu'il y avait un danger, non seulement pour les gens à l'intérieur, mais aussi pour son vice-président? On va le savoir avec ça, mais les gens qui ont des subpénats pour venir témoigner, comme Steve Bannon, refusent catégoriquement. Donc, il va peut-être y avoir des poursuites judiciaires dans tout ça. Je peux te dire que le président doit pas être très content aujourd'hui.
Alors,
l'ancien président, plutôt.
Non, j'imagine. Le gouvernement de la Californie, écoute ça, Jérémy, légifère sur l'utilisation du condom.
Oui.
Pardon. On est en 2021.
Ah, oui.
Mais tu vas voir, ça devient intéressant quand même et d'autres États devraient emboîter le pas. Pourquoi? Parce que c'est une nouvelle, je veux pas dire mode, là, je suis pas sexologue, alors je vais pas rentrer là-dedans, mais aux États-Unis, il y a un problème, il y a aussi au Canada, de gens qui consultent des sites pour avoir une technique où pendant qu'ils ont une relation avec leur partenaire, eh bien, ils retirent le condom. Donc, c'est des risques de grossesse, des risques de maladies transmises sexuellement. Alors là, on a décidé de légiférer et de dire c'est illégal de faire ça. Parce que, justement, écoute, on s'entend qu'on n'a pas le consentement
donc,
de la personne.
Donc, on légifère sur le retrait de condom sans consentement.
Exactement. Et là où ça devient une autre étape encore plus intéressante, on n'a pas réussi à légiférer au niveau criminel, donc on l'a légiféré au niveau civil. Ça veut dire que si une femme ou un homme veut poursuivre son partenaire pour cette raison-là, ça va être au civil. Qu'est-ce que ça fait au civil? C'est qu'on n'a pas besoin d'avoir il n'y a pas cette option de doute raisonnable pour la responsabilité. Donc, c'est plus facile de faire condamner quelqu'un, mais par contre, la personne doit assurer les frais juridiques, donc c'est quand même différent. Mais tout de même, on veut découvrir parce qu'il y a des sites aux États-Unis qui ont été forcés de fermer parce qu'on démontrait des techniques. Il y avait une espèce de tendance, surtout pour les jeunes, de faire ça dans leur relation. Donc, on s'entend que c'est pas... c'est assez particulier comme loi quand tu lis ça comme ça, mais
oui,
dans le concret, c'est quand même une question, je te dirais, de santé aussi. Hein?
Oui, et on termine sur ce qui a été vraiment l'affaire qui a captivé l'Amérique. La disparition et la découverte du corps de la jeune Gabby Petitot aux États-Unis. On est toujours à la recherche du principal suspect, celui qui a voyagé avec elle au Wyoming et dans l'État de Utah. Brian Laundrie est toujours disparu.
Quelle histoire, hein? Vraiment, là, écoute, on dirait qu'on voit un film se dérouler sous nos yeux. Je rappelle très, très rapidement aux gens, Gabby Petitot, c'était cet influenceur sur les réseaux sociaux avec son copain, des vidéos YouTube. Il faisait un voyage à travers les parcs aux États-Unis à bord d'une van qu'ils avaient convertie et elle a été retrouvée. Elle sans vie dans ce parc au Wyoming. Donc, son fiancé est recherché. Pas pour le meurtre directement, là, on dit que c'est un témoin important, mais pour avoir fraudé, avoir utilisé sa carte de débit quand elle était déjà morte. Donc, il ne pouvait pas donner son consentement. On parle encore de ça d'une autre façon, là, mais vraiment, on le recherche. Et le problème, c'est que lui était rentré en Floride sans sa fiancée, en disant rien à personne, en coopérant pas avec les policiers. Et à un moment donné, les parents de Brian Laundrie avaient levé la main en disant « Ah, ben finalement, mon fils est disparu. » Donc, il y a une chasse à l'homme depuis le 14 septembre dernier. Et là, on ne le trouve toujours pas. Finalement, on a des nouveaux détails. On sait qu'il l'a quitté pas le 14, mais le 13. Ça, on a pu le prouver. Donc, depuis le 13, il est disparu. Et il y a des gens, des policiers, même des chasseurs de primes. Écoute, il y a une chasse à l'homme un peu partout aux États-Unis. Et sur les réseaux sociaux, ça s'enflamme parce qu'on le recherche dans une grande réserve naturelle de la Floride où c'est extrêmement difficile de survivre carrément. On a trouvé cette semaine un campement qu'il aurait utilisé. Mais ailleurs aux États-Unis, même au Canada. Écoute, j'ai vu des vidéos, Paul, d'une agente de bar, pardon, à Toronto qui a dit avoir vu Brian Laudrey à Toronto à la sortie d'un hôtel.
Ah oui?
Quelqu'un qui a dit en Californie qui a croisé Brian Laudrey dans une randonnée. Il y en a partout comme ça aux États-Unis, des gens. Donc, les internautes sont à la recherche de Brian Laudrey. Les policiers le sont aussi. Donc là, c'est la grande question. Est-ce qu'on va le retrouver? Si on le retrouve, est-ce qu'il va lui-même être en vie? Parce que ça fait quand même...
Ça, il y a d'autres personnes qui pensent que peut-être qu'il n'est même pas de notre monde. C'est-à-dire qu'il s'est enlevé la vie.
Mais c'est une grande possibilité. Les taux se resserrent. Même les gens qui l'auraient aperçu à Porto Rico, imagine. Alors, on est rendu très loin dans les spéculations de cette histoire.
Merci Valérie. Bonne semaine.
Ça me fait plaisir. Bonne semaine.
Au retour, ben, on apprend ce matin, non sans étonnement, Thérèse, Denis Coderre, candidat à la mairie, a déjà évoqué les périodes difficiles qu'il a traversées après sa défaite en 2017. Il a songé au pire, à mettre fin à ses jours. Cette révélation a fait partie d'un segment non diffusé de l'entrevue accordée à Marie-Louise Arsenault dans le cadre de l'émission « Dans les médias ». Nous allons parler à Marie-Louise au retour.